Radio Évasion. Radio Évasion sur 100.4 FM. Les circuits courts de l'information.
Bonjour à tous et bienvenue dans LEM, l'émission sur Radio Évasion. LEM, un samedi, ce n'est pas courant. Ne vous inquiétez pas, les jeunes bénévoles de Radio Évasion, de l'AS d'Irinon et de Pincran prennent l'antenne pour une émission spéciale sport et sport féminin.
LEM, l'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
À LEM Sport, ce midi qui va s'intéresser presque uniquement au sport féminin de notre beau département. Le sport pro, ce n'est pas que le foot, même si le stade brestois cartonne en ce moment. Il y a du basket et du handball.
Tu as tout à fait raison Gaëlle. Ce midi, on fait le tour de l'actualité du sport professionnel féminin du Finistère Nord. On ira sur ce début d'émission à Landerneau avec les filles du basket qui sont en pleine ascension. Nous serons dans quelques instants avec le président Erwan Krogenek.
En effet, Bleuenne, on commencera cette émission par du basket. Un peu plus tard, on vous parlera du Brest-Bretagne handball. Et en fin d'émission, on parlera foot féminin avec Maëlle Carguette, en charge du développement du foot féminin au district de football du Finistère.
Et pour débuter cette émission, nous allons à Landerneau. Le club de basket fait une super saison et s'apprête pour la première fois à disputer des play-offs du championnat de France de première division. Les deux Ewen nous en disent plus sur l'actualité du club. Et juste après, nous serons en direct avec le président de Landerneau Basket, Erwan Krogenek. Peux-tu nous en parler un peu plus, Ewen?
Eh bien, saviez-vous que le Landerneau Bretagne Basket est issu d'une union en 2014 entre le Pleiber Christ Basket Club et l'Elorn Olympique Landerneau, qui formait avant 2015 le Léon Trégor Basket?
Une fusion qui a créé une nouvelle dynamique.
Oui, en effet. Le club de Landerneau a fait une saison 2017-2018 formidable en Ligue 2 féminine, en finissant en première place de la saison régulière et en remportant les play-offs face à Angers. Ce résultat permet au club d'atteindre, pour la première fois de son histoire, la Ligue féminine de basket. Elle devient la première équipe bretonne à accéder à l'élite féminine depuis l'avenir de Rennes en 98.
Quelles sont les opportunités pour la fin de la saison?
L'équipe de Stéphane Leite a beaucoup changé en été 2018 avec de nombreux départs et arrivées. La nouvelle équipe promue finit en 7e place de la saison régulière et affrontera lors des quarts de finale des play-offs les deuxièmes du classement, Bourges.
Bourges, c'est une grande place du basket français. Dis-nous tout sur Bourges, Ewen.
Le Tango Bourges Basket possède un des plus beaux palmarès du pays, avec 3 victoires en Euroleague. Le club est le premier ex aequo avec le Clermont UC pour le plus grand nombre de titres de championnat de France avec 14 titres. Les Oranges et Noirs ont fini deuxième de la saison régulière à égalité de points avec les Lyonnaises au sommet du classement. Ça annonce donc un match compliqué pour les filles de Landerneau, qui lors des matchs de saison avaient perdu 79-62 à Bourges et 83-55 à domicile, ce qui fait un écart en tout de 45 points. Rappelons néanmoins que le contexte n'est pas le même et que tout peut se jouer lors de ces deux matchs de 4 fois 10 minutes.
Quel est le bilan global de la saison?
On peut donc dire que c'est une saison réussie pour les filles du LBB qui assurent leur maintien en élite et se donnent une chance en play-off.
Et nous sommes au téléphone avec son président, Erwan Krogenek. Bonjour Erwan.
Oui, bonjour.
Que pensez-vous de la saison du LBB? En êtes-vous satisfait?
Ah ben, on ne peut être que satisfait au vu des résultats, au vu de l'engouement, au vu de la dynamique et de tout ce que ça procure, en tout cas dans l'entourage. Et puis, bien sûr, le classement. C'est vrai que pour nous, c'était inespéré d'atteindre les play-offs, comme l'avait très bien décrit. On s'attendait plutôt, comme c'est souvent le cas pour les clubs promus comme nous, à se batailler pour le maintien. Et c'est vrai qu'on a, à notre grande surprise, gagné lors du dernier match de la saison régulière à une place en play-off, la 7e place. Qui nous offre en plus une très belle affiche puisqu'on rencontrera Bourges, comme vous l'avez très bien dit.
Dans quel état d'esprit sont les joueuses avant ce match, avec ou sans pression?
On a un groupe, et pour ceux qui sont déjà venus à la cimenterie, on a un groupe qui est perfectionniste, un groupe qui ne lâche rien, et c'est pour ça que l'année dernière, nous avons réussi à atteindre l'élite du basket français. C'est un défi qui sont très déterminés et qui se mettent vraiment une pression positive à chaque rencontre, peu importe l'adversaire, peu importe l'enjeu. La volonté est toujours de tout donner, donc, et puis surtout de faire plaisir au public. Et c'est vrai que quand on voit l'investissement qu'elles y ont mis maintenant depuis plusieurs années, puisque c'est pas simplement le résultat d'une simple saison, je pense que les filles auront vraiment à cœur d'aller jusqu'au bout et de tout donner jusqu'au bout pour si on perd, ce sera en tout cas avec les armes à la main.
Pouvez-vous nous expliquer les coulisses ? Les filles sont déjà parties à Bourges pour le premier match. Attendent-elles mercredi avec impatience ?
Alors les filles, elles partiront à Bourges parce que le match a lieu mercredi soir à 20h dans la magnifique salle du Prado. Elles partiront la veille, le mardi, en quart, puisque Bourges est en fait la destination la plus, compliquée en termes d'accessibilité, puisque et le train et l'avion c'est compliqué, donc on se déplace en car, en bus, donc elles partiront 6h30, 7h de route pour rejoindre Bourges mardi. Elles resteront donc à l'hôtel la veille, elles auront peut-être une petite séance d'entraînement, je ne sais pas ce que le staff a prévu, le mardi soir, elles auront certainement ce qu'on appelle un shooting, c'est une séance de tir, qui est en fait dans le cahier des charges. Chaque équipe en fait doit pouvoir profiter d'une heure le jour de la compétition, une heure d'entraînement et de prise de repères. Et donc elles joueront le mercredi soir. Elles rentreront ensuite dans la nuit puisque il y aura le match retour le samedi 20 à la cimenterie.
Est-ce que les matchs de saison régulière face à Bourges peuvent devenir une leçon pour les deux matchs et peut-être trois?
C'est une toute autre compétition en fait qui commence. C'est vrai que la saison régulière, Bourges, Montpellier, Lyon, il y a de grosses cylindrées et c'est vrai qu'on savait très bien que on ne se maintiendrait pas grâce à ces rencontres-là. Il fallait vraiment capitaliser contre les équipes avec qui on allait se battre pour le maintien. Maintenant, les enseignements à tirer, ça c'est le staff qui, bien sûr, qui travaille. Comme vous l'avez très bien dit dans votre petit résumé, on a dû prendre une cinquantaine de points de différence sur l'ensemble des deux matchs lors de la saison régulière. On essaiera de faire mieux, mais comme je vous le dis, c'est des matchs couperets. La pression aujourd'hui ne sera pas sur nos épaules, elle sera avant tout sur celle de Bourges, qui en a vu d'autres, bien sûr, et qui saura, j'imagine, la maîtriser. Mais c'est vrai que nous, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on y va pour gagner, on y va pour faire mieux que lors des deux matchs de la saison régulière. Et moi, je suis confiant, en tout cas, pour compter sur les filles, en tout cas, essayer de faire mieux que ce qui a été jusqu'ici.
Avez-vous un objectif pour ces play-offs ?
Je l'ai dit un peu en filigrane, c'est vrai que l'objectif contre Bourges, ça pourrait paraître prétentieux de dire qu'on veut faire un résultat. Il n'empêche que si on s'est qualifié pour les playoffs, c'est pas pour faire de la figuration. Et le sport, peu importe l'activité, vous savez très bien que sur des matchs comme ceux-là, on le voit en Coupe de France, en football, il arrive très souvent que le petit renverse le plus grand. On sait que c'est déjà une très belle victoire de rencontrer Bourges, c'est un très beau cadeau pour les supporters, mais moi je suis confiant, on va prendre les matchs les uns après les autres, avant de penser au troisième match d'appui, on va déjà en tout cas aller au Prado pour essayer de faire la meilleure performance possible et puis rendre une copie le plus propre possible. Les filles, ce sont des compétitrices. Et c'est certain que j'en connais pas une dans notre groupe qui sortira des vestiaires pour aller sur le terrain en se disant « bon, on va faire figuration et on va attendre que ça se passe et on va essayer d'en prendre le moins possible ». C'est pas la philosophie du club. Ce qui compte avant tout, c'est d'être nous-mêmes, de jouer avec nos valeurs de générosité. Elles sont combatives et aujourd'hui, sur le papier, il y a 0-0. Donc, charge à nous de tout mettre en œuvre pour que on réussisse en tout cas à les inquiéter quelque peu.
Selon vous, quelles sont les joueuses en forme actuellement ?
On est en fin de saison, il y a des hauts, il y a des bas. Là, les filles auront récupéré là pendant une dizaine de jours. Elles finissent sur une très belle prestation qui a mis vraiment tout le monde sur les bons rails à Mondeville. On a des filles d'expérience, on a des filles généreuses, on a des filles qui sont spontanées, on a des filles qui sont fougueuses. Donc, dire que certaines sont plus en forme que d'autres, je ne crois pas. C'est dur sur une saison d'être toujours à 100% et au meilleur de sa forme. Ce que je sais en tout cas, c'est que le staff a très bien travaillé et travaille très bien pour que les filles soient prêtes justement pour ces échéances qui sont vraiment très importantes. On s'attendait au play-down, il fallait qu'on soit vraiment, qu'elles soient vraiment à 100% toutes pour les play-down. Ben, elles le seront aussi pour les play-offs. Et, non, là-dessus, je suis confiant. Et l'année dernière, c'est ce qui a fait notre force. C'est que, voyez-vous, les filles ont été vraiment bien préparées pour ces matchs importants qui nous ont permis de monter en Ligue féminine. Donc, non, je pense qu'il n'y en a pas une plus en forme que l'autre. Bon, pour ceux qui suivent l'équipe de près, vous savez que Marie Butard voilà, revient de blessure. J'espère vraiment, vraiment qu'elle sera opérationnelle parce que c'est une pièce maîtresse dans le dispositif. Elle fait partie de, voilà, des anciennes, entre guillemets. Et c'est vrai que dans ce genre de match où il faut vraiment tout donner, elle a un tempérament et elle sait traîner les filles avec elle dans cette belle dynamique. Donc j'espère que Marie, en tout cas, sera sur le terrain, ne serait-ce que pour la remercier de son investissement qui est irréprochable.
Est-ce qu'on sent à Landerneau une effervescence autour du club? Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, non?
Oui, c'est vrai que on imaginait que le fait de monter crée vraiment quelque chose de, un engouement certain, mais on ne mesurait pas qu'on serait à ce stade-là. La salle qui va atteindre les 2200 places samedi prochain, c'est complet déjà. Dès l'ouverture de la billetterie, on a dû limiter le nombre d'abonnés, voilà, pour voilà, que tout le monde, en tout cas les fervents supporters, puissent venir voir leur équipe. Mais c'est vrai qu'il y a, en tout cas, sur le territoire de Landerneau d'Aulas, parce que ça dépasse, bien sûr, ce projet-là dépasse le simple contour de Landerneau. Il y a vraiment une belle histoire qui s'écrit et je pense qu'elle n'est pas terminée. Alors, c'est dû à beaucoup de choses, c'est une équipe de bénévoles, c'est des choix qui ont été faits sportifs et qui ont été concluants. Ce sont des élus qui nous soutiennent et qui font tout pour que le territoire soit dynamique. C'est une salle qui a été construite il y a maintenant 2 ans et demi, la salle de la cimenterie, qui est un outil ben voilà, qui nous permet de nous exprimer dans de très bonnes conditions. Ce sont des partenaires, enfin c'est un public, c'est vraiment un ensemble de choses. Ça ne se résume pas simplement à une ou deux grosses joueuses qui ont porté l'équipe, ni un ou deux dirigeants. C'est tout un projet en fait qui continue à avancer depuis l'origine de son histoire à Plévercrest. C'est quelque chose, c'est une âme, c'est un esprit. C'est beaucoup de simplicité, c'est plus que du basket, c'est une véritable aventure humaine où les filles savent se montrer très disponibles, accessibles, et c'est un projet parmi d'autres, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Aujourd'hui, si ça marche, c'est parce que le Landerneau Bretagne Basket vit et travaille et réussit, parce que on développe les mêmes valeurs que l'on peut avoir au tournoi de Dirinon, qui mobilise énormément de personnes. La corrida à Landerneau, mais je peux élargir au carnaval de Landerneau. Enfin, c'est beaucoup d'événements comme ça que nous avons sur notre territoire, et c'est vrai que le sport a la particularité de rassembler les gens et que les gens s'identifient au projet et soient aussi fiers des couleurs pour lesquelles on se bat et des couleurs pour lesquelles on est prêt à tout mettre en œuvre pour que à travers la France, on soit fiers de Landerneau et fiers de nos couleurs, en tout cas.
Merci beaucoup, Erwan Kroganek, et on vous souhaite plein de bonnes choses.
Merci à vous, et je vous donne rendez-vous, en tout cas, le samedi 20 avril à 20h, pour le match retour contre Bourges, qui sera une affiche historique.
Merci à vous.
Merci. Sentence, but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we are.
certain cause. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time to lose us, cause we are the champions of the world.
We are the champions avec le groupe Queen. Le LEM Sport continue.
On fait maintenant un point sur l'actualité du Brest Bretagne Handball avec Tuc Duhal et Noé.
Nous allons vous présenter aujourd'hui le Brest Bretagne Handball, surnommé BBH, l'un des plus gros budgets du handball féminin français.
Le BBH finit la saison régulière à la deuxième place du classement derrière Metz. Les filles sont bien placées pour les playoffs, mais pouvaient espérer mieux si certaines joueuses n'étaient pas absentes et s'il n'y avait pas eu de problème d'effectif, en prenant l'exemple de la mise à l'écart d'Alison Pinault. Le BBH s'est arrêté au deuxième tour de la Ligue des Champions, ce qui est une déception.
Mais place aux play-offs maintenant. Les joueuses du BBH joueront Chambray, 7e du championnat, le 19 et le 24 avril. La coupe pourrait aussi les intéresser. Après avoir battu de justesse Celles-sur-Belle en demi-finale, elles joueront soit Metz, soit Nice le 25 mai 2019.
C'est une saison satisfaisante pour le Brest-Bretagne Handball, même si tous les objectifs n'ont pas été atteints. Les filles espèrent une victoire en finale des play-offs et une qualification pour la Coupe d'Europe.
Le BBH peut aussi compter sur un public toujours présent à l'aréna.
Merci Tuc Duhal et Noé. Une émission de sport sans parler de foot, ce ne serait pas une émission de sport. Bleuhen, tu as interviewé avec Laurane Maëlle Carguette. On va parler de foot féminin amateur sur notre territoire.
Oui, Maëlle a accepté de répondre à nos questions. On y parle de la place des femmes dans le foot et de sa visibilité. On écoute.
Nous accueillons Maëlle Carguette, une jeune salariée au district football du département Finistère, qui joue en parallèle au FC Bergotte et qui a également disputé les 32e de finale de la Coupe de France. Nous parlerons avec elle du travail qu'elle effectue au sein du district pour développer le foot féminin, des évolutions notables dans les clubs et du nombre de licenciés, ainsi que la visibilité du foot féminin.
Maëlle, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre parcours de footballeuse ?
Alors tout d'abord, j'ai commencé le foot en mixité, donc à l'âge de 7 ans, ensuite à l'âge de 14-15 ans, j'ai dû rejoindre une structure féminine puisque je n'avais plus le droit de jouer avec les garçons et de pouvoir continuer à évoluer toujours dans le foot avec les filles.
D'accord, et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du foot ?
Alors, quelle était envie, je me rappelle plus forcément. Sûrement le fait que voilà, j'aime bien sûrement taper dans le ballon avec les pieds plutôt qu'avec la main, parce que j'ai fait un an de basket avant. Et ensuite, de continuer à jouer, surtout en équipe.
Pourquoi mettre en avant du foot féminin ?
Alors pourquoi ? Ben parce que comme tout dans la société, je pense que les filles comme les garçons, n'importe quel âge, ont la possibilité de jouer au foot ou avoir un rôle dans un club. Et ensuite, puisque j'ai dû, comme je l'ai dit, commencer le foot avec les garçons, je sais comme quoi ça peut être quelquefois difficile de se faire accepter par les garçons lorsqu'on n'a pas forcément un bon niveau. Et pouvoir jouer avec les copines.
Et quelle est l'action du district pour promouvoir le foot féminin et quel en est votre rôle ?
Alors, il y a beaucoup d'actions pour développer la pratique. Déjà, c'est pas forcément le district qui travaille plutôt bien. C'est plutôt les clubs qui font un très bon travail d'accueil et de structuration pour accueillir au mieux les féminines, notamment en promettant des infrastructures de qualité, un encadrement aussi qui vient se former. Alors ça, par exemple, les formations, ça se passe avec nous. Donc voilà en ce qui concerne la pratique. Nous, au niveau du district, on a la gestion des différentes modalités de pratique, donc permettre aux clubs et les aider à engager des équipes en fonction du nombre de filles qu'ils ont par catégorie d'âge. Donc on les aide là-dessus et puis on accompagne surtout les dirigeants, éducateurs à se former et à savoir au mieux à accueillir ce public féminin.
Est-ce qu'il y a des clubs qui font plus d'efforts pour mettre en avant le foot féminin ?
Oui, bien sûr. Alors il y a des clubs qui vraiment souhaitent accueillir des filles parce qu'ils ont eu de la demande. Ils ont aussi certains clubs qui souhaitent avoir des filles parce qu'ils ont des obligations. Alors des obligations dues à quoi ? Dues notamment au niveau de leurs garçons, à arriver à un certain niveau, notamment en ligue ou nationale. Il y a des clubs qui ont dans l'obligation de se lancer dans le développement de la pratique. C'est-à-dire que sur les plus petites catégories d'âge, notamment sur les U6-U9, on leur demande d'avoir minimum 3 féminines pour pouvoir se lancer aussi dans cette belle aventure.
Et à votre avis, quelles peuvent être les motivations des filles à vouloir faire du foot ?
Bah souvent, on rencontre les jeunes filles qui débutent, donc les plus petites. C'est souvent parce que voilà, il y a souvent le papa ou la maman maintenant, mais souvent le papa ou le grand frère qui pratique. Donc elles veulent aussi s'y mettre. Alors après, la pratique des jeunes féminines est complètement différente de celle des garçons. Les garçons sont voilà plus compétitifs et plus dans la performance. Alors que les jeunes filles, ce qui les motive à venir pratiquer, je pense, c'est le fait de se retrouver entre copines.
Quelles évolutions constatez-vous au sein des licenciés dans le foot féminin ?
Alors nous, au niveau de la fédération, on a atteint il y a quelques temps les 150 000 licenciés. Donc c'est un très bon point, alors qu'il y a quelques années, on était à très peu. Au niveau du Finistère, on est aussi sur de belles augmentations, puisque cette année, on a réussi à faire plus de 10% de licenciés sur les pratiquantes. On arrive à un total de 2400 pratiquantes sur le territoire finistérien. Maintenant, nous, on est au niveau du Finistère par rapport aux autres départements bretons plutôt structurés, puisque ça fait très longtemps que mes collègues, avant que moi j'arrive au district, travaillaient sur le développement de la pratique. Donc, comme j'ai pu le dire, on laisse les clubs continuer à s'engager dans les différentes modalités de pratique et on aide justement les clubs qui sont un peu plus en difficulté à se structurer, notamment sur la formation de l'éducateur.
Est-ce que le foot féminin est plus visible qu'avant au niveau de la médiatisation, par exemple ?
Oh oui, oui, puisqu'avant on avait beaucoup de mal à regarder les matchs de l'équipe de France féminine. Il fallait parfois être sur des chaînes payantes comme Eurosport. Maintenant, on peut voir qu'avec la Coupe du Monde qui arrive cet été, sera plus facile d'y accéder puisque c'est TF1 qui a repris les droits. Notamment aussi pour la D1 féminine, où on voit que même si ça reste un groupe de chaînes payantes sur Canal+, on peut accéder un peu plus facilement au meilleur championnat national féminin.
Donc, pour finir, si la France venait à gagner la Coupe du Monde de foot féminin en juillet 2019, à votre avis, quelles seraient les réactions des gens et est-ce qu'elles seraient comme l'année dernière avec la Coupe du Monde de foot masculin ?
Alors, je pense qu'au niveau fédération, ça serait un plaisir semblable à ce que les garçons nous ont apporté l'été dernier. En termes de pratiquants et de pratiquantes, je pense que ça sera pareil, ça serait une belle retombée et un plaisir. Alors, je pense que niveau ferveur et tout ce qu'on a pu voir lorsque les Bleus sont entrés de Russie, on n'aura peut-être pas autant. Mais nous, en tout cas, on sait qu'au niveau du district, on aura sûrement des retombées où on aura peut-être plus de filles à venir pratiquer au sein des clubs et peut-être des parents qui seront un peu plus ouverts en voyant des jeunes filles qui sont plutôt féminines, alors qu'il y a quelques années, c'était le contraire. On aura peut-être des retombées où les parents accepteront plus facilement d'avoir une fille qui souhaite jouer au foot au sein d'un club.
Et on écoutait les White Stripes avec le titre Seven Nation Army. Avant de terminer cette émission, rendez-vous le 8 et 9 juin.
Donc oui, le 8 et 9 juin 2019 se déroulera la 25e édition du tournoi international de football organisé par le club de l'AS Dirinon. On y retrouvera des équipes U11 masculin et U13 féminin. Il y a une bonne répartition des grandes équipes dans le tournoi masculin avec notamment Sao Paulo, l'OM, Rennes ou encore Arsenal. Il y aura en tout 19 pays réunis pour cet événement. Pour le tournoi féminin, le niveau sera également relevé. Il y aura de grandes équipes françaises qui rencontreront des équipes locales, ce qui rendra le tournoi plus attrayant et donnera aux jeunes filles plus d'adrénaline.
En 25 ans, le tournoi a vu passer de nombreux joueurs aujourd'hui professionnels, mais qui à l'époque n'imaginaient sans doute pas le devenir. Par exemple, le tournoi a accueilli deux champions du monde français, Antoine Griezmann et Benjamin Pavard, mais également d'autres grands joueurs comme Jack Wilshere, Gauthier Larsonneur, le gardien brestois, ou encore Kingsley Coman. Un jeune talent pourrait alors faire ses preuves lors de ce tournoi et qui sait pourrait devenir un futur champion ou une future championne. Nous vous donnons donc rendez-vous le 8 et 9 juin à Dirinon pour ce tournoi qui s'annonce passionnant. Nous y ferons des interviews de joueurs, d'entraîneurs et même de supporters. On vous demandera vos pronostics pour les vainqueurs de chaque tournoi et nous ferons un résumé des plus beaux matchs.
Et voilà, cette émission est terminée. Prochain rendez-vous pour nous et notre équipe de reporters, ce sera le 8 et 9 juin prochain à Dirinon pour des émissions en direct lors du tournoi international.
Bon week-end.
L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.